La brochure.
La brochure.
La brochure.
La brochure.
La brochure.
Ben bonsoir.
Coucou.
On se retrouve à la brochure. On reprend à lire la deuxième partie de la brochure Les Cinq de Lucasville. On a attaqué ça la semaine d'avant. Et cette brochure il parle d'une mutinerie qui a eu lieu en Ohio, dans les États-Unis, pendant 11 jours en avril de 1993. Et on va recommencer.
Les 21 points et la reddition. Le vendredi 16 avril au matin, la seconde partie de l'accord est réalisée. Le musulman Stanley Cummings procède à la libération d'un otage, Anthony Demons, un Africain-Américain qui apparaît en djellaba et se présente comme converti à l'islam. Et il s'exprime ensuite à la télé.
Les prisonniers désignent une équipe de négociateurs. Hazan, pour les musulmans, Jason Robb pour l'Aryan Brotherhood et Anthony Lavelle pour les Black Gangster Disciples. Il présente une liste de revendications auxquelles l'État répond par sa propre liste composée de 21 points dans lesquels il promet d'améliorer, de considérer, d'essayer, de revoir les demandes des prisonniers. Signé par Tate, le directeur de la prison, le document est passé aux détenus pour qu'ils les signent à leur tour.
Plutôt que de le signer, les prisonniers demandent, le 18 avril, l'assistance d'un avocat, Nicky Z. Schwartz. Celui-ci reçoit l'assurance qu'une fois les otages libérés, l'État honorera ses promesses et ne prétendra pas que les 21 points ont été négociés sous contrainte. Mais les autorités exigent que 3 otages soient libérés avant que Schwartz ne soit autorisé à rencontrer personnellement les prisonniers. Les détenus refusent et ce n'est que le 20 avril que les négociations sont finalisées.
Le 21 avril, entre 6h et 23h30, les prisonniers se rendent par groupe de 20 et les 5 derniers otages sont libérés.
Tous unis contre les Bleus. À la prison de Lucasville, lorsque la mutinerie éclate, 57% des prisonniers sont africains-américains. Par contre, 85% des surveillants sont blancs. Et dans la ville de Lucasville, il n'y a aucun habitant africain-américain recensé. Dans la prison, les Africains-américains sont régulièrement victimes de violences racistes, voire d'assassinats. Un des problèmes soulevés par les prisonniers lors de la mutinerie était l'intégration forcée des détenus appartenant à des gangs, groupes ethniques, antagonistes, obligés de partager une cellule, mise en place par le nouveau directeur.
Il y a un autre extrait de « The Untold Story ». De nombreux jeunes blancs qui sont emprisonnés avaient auparavant eu que très peu de contact avec des noirs. En prison, le jeune homme blanc se trouve dans une situation où les blancs ne sont pas 8 fois plus nombreux que les noirs, comme dans le reste des États-Unis. Mais dans les prisons de l'État de l'Ohio, les noirs et les blancs sont en nombre égal. De plus, dans le système carcéral, il arrive davantage que dehors que les noirs occupent des fonctions administratives importantes. Tout point de prisonnier noir, par contre, l'oppression blanche qui existait avant qu'il aille en prison se poursuit de l'autre côté des murs.
Dans ce contexte, la mutinerie aurait pu prendre la tournure d'une guerre raciale. Mais assez vite, les mutins affirment être unis contre l'administration et appartenir tous à la race des condamnés. Convict race.
Une autre extrait du livre. Tous les prisonniers tués dans les premières heures de la mutinerie de Lucasville étaient blancs. Et tous les surveillants, sauf un, pris en otage, étaient blancs. Une guerre raciale dans les quartiers, elle, aurait très bien pu arriver. À la fin de la première après-midi, beaucoup des mutants se sont assemblés dans la salle de sport du quartier, elle. Les blancs dans les gradins, les noirs de l'autre côté. L'atmosphère était tendue. Little Willie, un autre Africain-Américain que Skates ne connaissait pas, a dit à ce dernier « George, viens au gymnase ». Tous les blancs sont d'un côté, les noirs de l'autre. Selon les souvenirs de Skates, il est allé au gymnase et s'est tenu face à ses compagnons blancs assis sur les gradins. George a mis son bras sur l'épaule de Little Willie et leur a dit « C'est contre l'administration, nous sommes tous ensemble, ils sont contre tout ce qui porte du bleu. » S'ils arrivent ici, ils vont tout nous tuer. Ils vont tuer ces gars et moi, peu importe notre couleur.
La solidarité entre les différents groupes de prisonniers qui s'est établie pendant la mutinerie a soudé à jamais certains de ceux poursuivis, puis condamnés par la justice états-unienne. Cette solidarité est illustrée par le récit de Keith, un Africain-Américain, fait de son arrivée dans le couloir de la mort et de son accueil par Jason Robb, un membre de l'Aryan Brotherhood qui l'a précédé.
Notre extrait. Nous ne nous connaissons pas. Nous n'avions jamais échangé un mot. Et pourtant, nous nous retrouvions unis dans cette étrange fraternité. Et nous comprenions instinctivement que nous devions compter l'un sur l'autre. Des années plus tard, lorsque nous avons été connus sous le nom des cinq de Lucasville, les gens nous demandaient comment nous avions pu forger des liens aussi forts étant donné nos différences si évidentes. La réponse est simple. Quand vous êtes dans un bâtiment en feu, les facteurs comme la race, la religion et les parcours personnels sont des considérations secondaires dès que l'esprit de survie se met en place.
Jason et moi avons bien parlé la première nuit où j'étais ici, et le fait qu'il appartienne à l'Aryan Brotherhood n'est jamais venu sur le tapis. Au lieu de ça, nous avons parlé de ce qui avait à voir avec nos difficultés actuelles.
Il m'a dit « Ces salopards vont nous retrouver, Kate », et il m'a peint en noir notre avenir.
Quelques jours plus tard, un administratif du bureau central est venu me voir, et il a confirmé tout ce que Jason m'avait dit. C'était une rencontre démoralisante.
Et d'ailleurs, vous préférez l'inhibition létale ou la chaise électrique, m'a-t-il demandé.
Quoi?
Oui, je dois vous informer que vous avez le choix de la méthode d'exécution, l'administratif m'a dit, poussant vers moi un bout de papier avec une case à cocher. Chaise électrique ou injection létale.
Si vous refusez de choisir, l'administration a continué, on sera obligé de choisir pour vous. Et malheureusement, nous devons décider. Si nous devons décider, ce sera la chaise électrique.
Répression et condamnation. Lorsque la mutinerie s'achève, plus de 400 détenus sont susceptibles d'être interrogés et poursuivis. Schwartz organise une équipe d'avocats qui rencontre chaque détenu pour l'informer de ses droits. Pendant ce temps, des manifestations anti-détenus ont lieu et une pétition qui se termine par le mot « Use the death penalty » est signée par plus de 26 000 personnes.
Les faits qui sont poursuivis sont les 10 homicides, et non la mutinerie elle-même, pour lesquels une cinquantaine de personnes seront inculpées, jugées et pour beaucoup condamnées.
Sans s'entrer dans les détails des procédures, qui sont encore pour certaines en cours, on peut néanmoins souligner que les procès ont été particulièrement injustes. Les prisonniers ont été assistés d'avocats et avocates, commis d'office, peu motivés, à les défendre. Par exemple, l'une était mariée avec un procureur local. Les procès ont eu lieu dans des villes comme Cincinnati, considérées comme la plus raciste de l'État et avec les taux de prononcés des peines de mort les plus élevés du pays. Un prisonnier a, par exemple, eu un jury dans lequel il y avait un seul noir, alors que dans les comtés dans lesquels il était jugé, les noirs composent un cinquième de la population.
Surtout, il apparaît que les bases matérielles, l'ADN, les armes des crimes, etc., des faits, n'ont quasiment pas été discutées et que les condamnations reposent sur les témoignages de témoins qui ont la particularité d'avoir été aussi poursuivis, puis d'avoir bénéficié d'aménagements de peine une fois qu'ils sont devenus des témoins de l'accusation, c'est-à-dire des balances.
Il est difficile de résumer les arguments qui ont été débattus pour chacun des 10 homicides poursuivis. Par contre, il apparaît clairement que les condamnés ont, au pire, été témoins des faits et que dans beaucoup de cas, il était matériellement impossible pour eux d'avoir commis les faits. Par exemple, expertise indiquant qu'un seul coup mortel avait été porté à une victime et condamnation de plusieurs personnes pour ce même coup. De plus, dans les droits états-uniens, la complicité permet de condamner à mort une personne en raison de sa simple présence lors d'un fait criminel ou de toute autre forme de participation. C'est le cas des Hassan.
Autre difficulté à laquelle ont été confrontés les prisonniers, il n'y a pas eu un seul procès pour l'ensemble des faits commis durant la mutinerie, mais une multitude de procès individuels, rendant parfois risqué pour un prisonnier de témoigner si ses propos pouvaient être utilisés contre lui ultérieurement.
Un autre petit extrait du livre. Les accusés étaient face à un dilemme atroce. S'ils étaient coupables, ils pouvaient plaider coupables et voir les charges être abandonnées et même leur peine réduite. S'ils n'avaient tué personne durant ces 11 jours, ils ne voulaient pas plaider coupable pour quelque chose qu'ils n'avaient pas fait. Ils sont allés au procès et ils ont essayé de convaincre les jurys de leur innocence. Mais les jurys étaient composés d'hommes et de femmes qui étaient disposés à recommander la peine de mort. Leurs procès ont été dirigés par la doctrine de la complicité. Et les juges ne pouvaient en aucune manière assurer les accusés de la bonne foi et de la crédibilité des témoins de l'accusation.
Une implacable répression. Si on regarde les peines qui ont été prononcées, il apparaît nettement que les plus lourdes d'entre elles visent des prisonniers ayant pris part aux négociations et qui ont été attentifs à ce que les otages, détenus ou surveillants, ne soient pas assassinés, y compris en prenant des risques vis-à-vis de leurs co-détenus, comme par exemple Georges. Ils étaient connus et n'ont pas caché dans la masse de 400 mutins. Les biographies des cinq de Lucasville montrent qu'ils avaient plutôt tout à perdre. Ils étaient issus de milieux défavorisés, à part, dans une certaine mesure, Rob, avaient eu des parcours de vie extrêmement difficiles et avaient quasiment pas d'éducation. Qui plus est, James Weir a été reconnu à la limite du retard mental.
Les prisonniers qui ont pris les plus lourdes peines ont plusieurs points communs. D'abord, de la solidarité entre co-détenus, qu'elle soit manifestée durant la mutinerie ou ensuite. Par exemple, Namir a choisi de témoigner, avant son propre procès, en faveur de Derek Cannon, qui était soupçonné de participation à l'escadron de la mort. Plus en bas, on vous expliquera c'est quoi l'escadron de la mort. Présent dans le L6 au moment du meurtre, il a témoigné de l'absence de Derek Cannon sur le lieu de meurtre. Namir a lourdement payé pour sa solidarité avec son camarade détenu. Son témoignage a ensuite été utilisé contre lui.
Il est également remarquable que ces détenus sont aussi ceux qui se sont montrés solidaires des autres mouvements de prisonniers, notamment contre les Supermax. Les Supermax, c'est décrit dans le lexique, comme étant le nom donné aux prisons de sécurité maximale aux États-Unis. Ils ont activement participé à plusieurs grèves de la faim, par exemple en soutien à la grève de la faim des prisonniers du quartier d'isolement de Pelican Bay en 2011.
On lit un petit extrait. Nous prions et espérons pour que notre soutien à nos frères de Pelican Bay ait un effet domino à travers la nation. Qu'avec les prisonniers d'autres États, ainsi qu'avec les soutiens de l'extérieur, nous soyons unis contre les oppresseurs de Pelican Bay. Peu importe les difficultés que nous pourrons rencontrer, comme le camarade George L. Jackson l'a écrit, la conscience révolutionnaire est le seul vrai espoir de celui qui est opprimé.
Nous indiquons les peines prononcées, mais pas de manière exhaustive, car l'information étant parfois difficile à trouver. Nous indiquons également les individus qui sont devenus des témoins de l'accusation, donc au service de l'État.
Meurtre d'Earl Elder. Condamnation. George, peine de mort. Eric Jurdy, perpétuité. Roger Snodgrass, qui il était considéré un peu comme une balance, selon les personnes qui ont écrit le livre. 25 ans, libéré en conditionnel en 2006. Tim Williams, libéré en 1998.
Le meurtre a lieu la première nuit de la mutinerie. La théorie de l'accusation est que George aurait ordonné à Roger Snodgrass d'assassiner Earl Elder. Pourtant, quelques années après la condamnation à mort de George, Eric Gurdy, qui a reconnu avoir pris part à cet assassinat, a été condamné à perpétuité. Il a toujours innocenté George, qui, le premier soir de la mutinerie, était occupé à assurer la sortie de prisonniers et de surveillants grièvement blessés.
Meurtre de Bruce Harris. Poursuite contre Hassan et Namir. Finalement innocenté.
Le 21 avril, dans les dernières heures de la mutinerie, les musulmans font une prière collective dans l'allée du L6. Bruce Harris, qui était réputé avoir des problèmes psychiques, avait été enfermé par les mutins dans une cellule du L6. Ayant interrompu à plusieurs reprises leur prière en raison des obscénités proférées par Bruce Harris, plusieurs détenus ouvrent sa cellule et le tuent.
Stacy Gordon a admis avoir pris part à ce meurtre, mais il n'a pas été inculpé.
Meurtre de David Summers. Condamnation. Jason, peine de mort. George, peine de mort. Robert Brookover, qui est considéré comme une balance. 5 à 25 ans, compressible avec peine précédente, libéré. Aaron Jefferson, perpétuité.
Le meurtre a lieu durant la reddition. George a été condamné sur la base du témoignage de Stacy Gordon, alors que de nombreux autres ont indiqué qu'il n'avait jamais été en présence de David Summers et qu'il n'avait aucune raison de le tuer. Quelques semaines après la condamnation de George, Aaron Jefferson a été condamné à perpétuité pour avoir commis le meurtre. Pourtant, selon les expertises médicales, David Summers a été tué d'un seul coup, donné par un instrument type batte de baseball, et George a été condamné pour avoir donné ce coup mortel.
Jason a été condamné pour avoir, selon la théorie de l'accusation, attiré David Summers hors du L7 et avoir permis son meurtre. Or, de nombreux témoignages réfutent cette version des faits.
Robert Brookover a admis avoir participé au meurtre. Il a été condamné à une peine compressible avec celle qu'il purgeait et il a été libéré depuis. Roger Snodgrass, qui a admis avoir participé au meurtre et a été un témoin de l'État dans un autre procès, n'a jamais été poursuivi.
Meurtre de Robert Vallandigham. Condamnation. Hassan, peine de mort. Namir, peine de mort. Jason, peine de mort. George, perpétuité. Anthony Lavelle, qui est considéré comme une balance, 7 à 25 ans compressible avec peine précédente, libérable à partir de 1999.
Une accusation qui a pris forme après des mois d'enquête, non pas sur des faits concrets, reconstitution de la matinée du 15 avril, mais plutôt du rôle des leaders.
Namir. Il a reconnu avoir été présent dans le L6 lors de l'assassinat de Robert Vallandigham par Anthony Lavelle, mais il dit ne pas avoir été en mesure de s'y opposer. Il raconte qu'il est ensuite allé parler à ses supérieurs parmi l'organisation des musulmans, et quand il a appris que ceux-ci n'avaient pas approuvé l'assassinat, il est allé s'en prendre physiquement à Lavelle, ce qui est rapporté dans de nombreux témoignages.
Hassan, dans les premières heures de la mutinerie, il a fait enfermer dans les L6, pour leur propre protection, les surveillants otages et les détenus réputés être des balances. Par ailleurs, selon les retranscriptions et plusieurs témoignages, Hassan n'a pas prononcé un mot lors de la réunion du jeudi 15 avril où les sortes de surveillantes est réputé avoir été scellées.
Rob, on a vu qu'il faisait partie des négociateurs. C'est lui qui était en contact permanent par téléphone avec Schwartz avant que celui-ci ne soit autorisé à voir les prisonniers.
Assassinat commis par l'escadron de la mort. Condamnation, Keith Lamar, peine de mort.
Le L6 était sous le contrôle des musulmans. Dès le début de la mutinerie, c'est là qu'ont été gardés les otages, mais aussi, pour leur propre protection, des prisonniers qui étaient réputés être des balances. Durant les premières heures de la mutinerie, un groupe d'hommes, surnommé par la suite l'escadron de la mort, Death Squad, est allé de cellule en cellule dans le L6, s'est attaqué à certains détenus, les blessant et en tuant 5. Daryl DePina, Franklin Farrell, Albert Staino, William Svet et Bruce Vital.
Albert Staino et Bruce Vitale, son origine italienne.
Yeah.
Keith Lamar a été accusé d'avoir coordonné l'escadron de la mort. Le 11 avril après-midi, il fait son jogging dans la cour des promenades lorsque des prisonniers masqués surgissent et annoncent avoir pris le contrôle du bloc. Comme beaucoup de détenus, Lamar rentre dans le bloc car il s'inquiète pour ses affaires. Il découvre que sa cellule est utilisée pour y garder des otages.
Petit extrait d'un livre. J'ai couru jusqu'au tableau de bord avec l'intention de libérer ces individus de ma cellule. Mais ne comprenant pas vraiment comment faire marcher le tableau de bord, j'ai, sans faire exprès, ouvert plusieurs cellules voisines qui étaient aussi utilisées pour garder des gens. En voyant cela, Les personnes qui géraient le tableau de bord ont crié et ils m'ont dit de sortir du secteur. On m'a escortée jusqu'à un chef qui m'a expliqué ce qui se passait. On m'a donné le choix entre partir ou alors rester et rejoindre la mutinerie. J'ai choisi de partir et à 15h30, j'étais déjà de retour dans la cour.
Avec beaucoup d'autres détenus, Bomani reste ensuite dans la cour des promenades, d'où il voit des corps être sortis du bâtiment L. Des groupes les détenus se forment et, lorsque la nuit tombe, pour se protéger du froid, des feux sont allumés. Vers 2h du mat, des forces d'intervention arrivent et transfèrent les prisonniers restés dans la cour des promenades vers les quartiers K de la prison.
Pourquoi Lamar a-t-il été poursuivi et condamné? Son dossier est malheureusement classique pour la justice américaine, où les peines se négocient. Un autre détenu, Stacy Gordon, qui est considéré comme une balance, qui a reconnu certains faits, a été le principal témoin de l'accusation dans plusieurs procès, ce qui lui a permis de sortir de prison en 2007. L'acharnement contre Lamar est dû à son refus de parler avec la police et la justice, aggravé par son incitation de ses co-détenus à faire de même. Par ailleurs, Lamar reconnaît avoir été témoin d'un des meurtres, mais qu'une mutinerie est un moment extrêmement dangereux pour chaque détenu, où chacun ne peut penser qu'à sa survie, et qu'il n'était donc pas en position d'intervenir.
Eh bien, merci pour l'écoute. On s'interrompt ici et on se réécoutera la semaine prochaine.
À la semaine prochaine!